Il a été député à l'Assemblée nationale, bien sûr. Il est le leader parlementaire de l'opposition officielle à la Chambre des communes du Canada, mesdames, messieurs, député également de Louis-Saint-Laurent pour le Parti conservateur. Monsieur Gérard Deltel est avec nous en ce dimanche matin. Bonjour, monsieur Deltel.
Bonjour, monsieur. Quel plaisir de vous parler.
C'est réciproque. D'abord, je veux parler de sujets qui ne sont pas tellement rassurants.
Oui.
Vous avez vu les deux incidents qui ont été d'ailleurs filmés sur Internet de ce qu'on appelle des arrestations citoyennes. Le journaliste de Radio-Canada, c'était troublant comme document, qui a été abordé par un individu sur la rue, qui l'a d'ailleurs touché hein, physiquement, là, tentait de lui bloquer le passage. Et puis, le chef du parti, nouveau Parti démocratique, Jack Meetsing, a vécu la même situation avec le même individu, la même conjointe. Est-ce que vous êtes inquiet, M. Deltel, de ce qui se passe à Ottawa en ce moment?
J'aime pas ça, parce que quand on voit ça, on ne sait pas comment ça peut finir, puis comment malheureusement ça peut allumer de mauvais instincts chez d'autres personnes qui peuvent être moralement très troublées. Et ça, c'est inquiétant pour nous autres. Moi, quand j'ai vu le vidéo de M. Thibault, de Daniel Thibault tantôt, ça m'a, d'abord, je tiens à saluer le sang-froid du journaliste, qui lui, moi je ne sais pas trop comment j'aurais pu réagir d'une certaine façon semblable quand quelqu'un s'en prend physiquement comme ça. Et Daniel a été très manifesté du sang-froid. Quant à M. Singh, c'est exactement la même chose. Le problème que je vois avec ça, c'est que c'est pas la première fois que cet individu-là agit de la sorte. Et d'aucuns soulèvent la question de la protection des chefs politiques, des gens, des ministres et tout ça. À Québec, malheureusement, à juste titre, parce qu'on a un passé douloureux, ne serait-ce que rappeler qu'en 2012, quand Mme Marois a été élue.
Et la fusillade de l'Assemblée nationale aussi au milieu des années 80.
Alors, nos ministres sont protégés, à mon point de vue, correctement, parce qu'il y a une protection à assurer. Mais à Ottawa, à part le premier ministre, puis peut-être quelques ministres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour les chefs. Puis là, je veux faire une distinction. Qu'un citoyen vienne nous voir, parce que ça arrive à toutes les fins de semaine, qu'un citoyen vienne nous voir, puis il nous dit des choses qui parfois sont plus désagréables, bon, ça fait partie de la démocratie. Puis de marcher, puis de quelqu'un qui continue à marcher avec nous pour nous dire des choses, ça fait partie de la démocratie aussi. Mais il y a un propos qui doit se tenir. Mais quand on vient qu'à faire des invectives, puis à dire « m'as-tu retrouvé, tu vas voir », là, ça dépasse l'entendement.
Alors, évidemment, il va y avoir des plaintes qui vont être formulées à la police, mais j'ai été étonné quand même, M. Deltel, on est dans une situation plus tendue. Les gens, en tout cas, sont évidemment, doivent supporter tant bien que mal cette pandémie. J'ai été surpris de voir qu'un chef de parti, mais même encore là, un politicien, comme M. Singh, se promenait comme ça sur la rue avec sa mallette. Il n'y avait aucune sécurité autour de lui, là.
Moi, je me souviens d'avoir vu Bill Morneau, qui était à l'époque où il était ministre des Finances, puis c'était mon vis-à-vis. Je le vois marcher justement en direction du Château Laurier. Puis il pleuvait, c'était le soir. Là, je le regarde, je dis, écoute, il ressemble donc bien à Bill Morneau. Mais je comprenais pas qu'un homme qui dirige un ministère qui gère 300 milliards de dollars se promène comme ça, comme si de rien n'était. Puis c'est ça que je lui dis. Oh, non, c'est correct, tu sais. Mais non. Mais vous savez, le problème avec ça, M. Hood, c'est que la sécurité, moins on en parle, mieux c'est. Et la sécurité, plus elle est discrète, mieux c'est. Et moi, j'ai des amis, évidemment, qui travaillent au gouvernement du Québec, dans les ministères aujourd'hui, qui me racontaient, ils demandaient à quelqu'un qui est venu me voir, il dit, c'est correct, M. X, je ne l'identifierai pas, vous pouvez passer par la porte d'à côté. Et c'était un type qui avait l'air d'un kidam, mais qui finalement était un agent de la Sûreté du Québec qui assurait la sécurité de façon très discrète. Alors, nous, évidemment, c'est sûr, ce qu'on souhaite, c'est moins de sécurité parce qu'on ne veut pas trop en avoir. Mais il y a une façon de faire discrète qui pourrait être inspirante pour la suite des choses parce que malheureusement, ce qu'on voit actuellement, oui, il peut y avoir une escalade puis on peut pas se payer le luxe de prendre une chance dans une situation comme ça.
Oui, j'ai l'impression que tout le monde est pas mal d'accord là-dessus, mais je retiens ce que vous dites, une surveillance discrète et non pas une hyper-médiatisation en disant que de nouvelles mesures de sécurité vont entourer les élus. Vous dites que ça ne ferait qu'ajouter au niveau de tension.
Souvent, c'est la nouvelle qu'on évite est la meilleure des nouvelles. Hein. Et la sécurité, moins on en parle, mieux c'est.
Bon, ben on va parler. Écoutez, on pensait, M. Deltel, qu'on s'en allait en élection. Vous avez un chef tout neuf.
Oui.
En plus, il attrape la COVID-19 et sa femme aussi. Ça part mal.
Ah, c'est triste. C'est triste qu'est-ce qui s'est passé, mais ça démontre qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis Aaron, évidemment, bon, je le connais très bien. Je connais très bien Rebecca, son épouse aussi, les enfants, Jack et Morley. C'est triste ce qui est arrivé. Mais ils ont fait les choses qui devaient être faites. C'est-à-dire, dès qu'ils ont senti qu'il y avait un problème, immédiatement un test, le résultat positif, bon, on prend les mesures nécessaires. Son épouse, Rebecca, premièrement, le premier test qui était négatif, mais il y a eu un second test qui a été mené, puis c'était positif. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri, et tout le monde doit faire attention, parce qu'il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans, il y a juste une question de malchance, et il faut faire attention, et surtout, lorsqu'on a des symptômes, prendre les mesures nécessaires.
Dites-nous, M. Deltel, est-ce que dans les troupes conservatrices, dans votre parti, on se préparait peut-être à une élection général, qui là risque d'être évité par le fait que le nouveau Parti démocratique devrait donner son appui à ce gouvernement minoritaire libéral de Justin Trudeau. Mais étiez-vous, comme on dit, en alerte?
Écoutez, on n'était pas allé en Ottawa. On ne va pas à Ottawa en disant on va renverser le gouvernement puis on va aller en élection. Mais dans un gouvernement minoritaire, l'élu, le politicien qui ne se prépare pas à une élection est irresponsable. Alors, bien sûr qu'on regardait ça, puis du coin de l'œil, on surveillait ça. Moi, j'ai rassemblé mes militants, mon exécutif au mois de juin, puis encore il y a deux semaines, pour leur dire, écoutez, ça se peut qu'il y en ait une élection. Alors, il faut se préparer en conséquence, parce qu'on ne peut pas présumer du vote. Alors, nous, quand on a entendu le discours du trône, rapidement, on a compris que ça n'avait pas de bon sens, fait qu'on a dit, on va s'opposer. Bloc a manifesté une certaine tendance vers ça, mais pas confirmée. Et le NPD aussi avait des préoccupations. Bon, alors, M. Singh a fait deux préoccupations le mercredi soir, puis le jeudi matin, il y avait un projet de loi qui répondait directement à ces deux préoccupations, et voilà donc qu'ils sont d'accord. Alors, on pense pas qu'il va y avoir d'élection, à moins d'un revirement majeur, mais cela dit, vous savez, on n'est pas là pour déclencher des élections, mais on est là pour gérer comme il faut. Quand on voit des choses qui font pas notre affaire, on le dit. Quand il y a des choses qui font notre affaire, ben, on le dit aussi.
Bon, alors, ça répond à la question. Maintenant, parlons de votre passion pour l'automobile. Et moi, ça m'a rappelé des souvenirs, et Thérèse, je suis sûr, parce que nous sommes à peu près du même âge, lorsque, au Québec, pendant une très courte période de temps, nous avons eu, mesdames, messieurs, croyez-le ou non, une industrie automobile. Et je ne parle pas, de General Motors à Boisbriand ou encore d'une usine de fabricants japonais, je ne sais pas, à Bromont. On avait une vraie voiture conçue et fabriqué au Québec, qu'on appelait la Manique. Et moi, j'ai appris que vous étiez non seulement un nostalgique de notre voiture québécoise, mais vous êtes en train d'en reconstruire une.
Absolument, parce que moi, je suis un passionné d'histoire, un peu comme vous d'ailleurs, et passionné des transports, un peu comme vous d'ailleurs, de l'aviation aussi, je suis pilote de paramoteur, mais aussi de l'automobile. Alors, des fois, je me dis, j'aimerais ça triper sur les crayons, ça me coûterait moins cher, mais non, c'est sur les autos. Bon. Alors, et particulièrement la voiture antique qu'on reconstruit, il n'y a rien de rationnel là-dedans, c'est uniquement de la passion pure pour notre histoire et notre histoire québécoise dont on peut être très fier. Et oui, c'est à la fin des années 60, alors que le Québec est en pleine ébullition, il y a un Français d'origine, Jacques Abou, un Canadien et Québécois, qui a eu l'idée de lancer une industrie automobile et il a commencé en créant une écurie de course automobile avec Jacques Duval, qui a été son premier pilote, et par la suite, il a créé littéralement une voiture flambant neuve, la Manique, basée sur la mécanique Renault et le châssis de Renault, malheureusement parce que c'était une usine à rouille, cette affaire-là, mais bon, basée sur la Renault, et là-dessus, il a mis une coquille et des éléments propres à la création québécoise, la Manique. Alors donc, ça a commencé tranquillement, mais rapidement, il y a eu un intérêt fabuleux pour ça. Et pendant un an et demi, on a vu une entreprise qui, finalement, c'était un bout de papier pour finir avec une vraie production de plus de 150 voitures. Et ça s'est fait à Granby. Et malheureusement, il y a eu un élan incroyable par rapport à ça. Et malheureusement, c'est tombé presque du jour au lendemain quand il y a manqué de fonds. Et les bailleurs de fonds privés ne voulant plus soutenir, il a fallu mettre la clé dans la porte. L'entreprise n'a pas fait faillite parce que M. Abou, c'est un homme d'honneur et de dignité. Il a payé jusqu'à la fin tous ses créanciers. Mais l'entreprise n'a malheureusement pas fonctionné parce que, oui, il y avait de l'intérêt pour ça, mais il y avait aussi des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de trésorerie. Mais quelle histoire fascinante! C'est un type qui est parti de rien, qui l'a rendu très loin. Et ce qui est beau dans ce véhicule-là, c'est quand vous le regardez, ça se dit, oh, c'est assez spécial. Le devant ressemble un petit peu à un style européen. L'arrière ressemble à un style américain, et le cœur, ben, il est québécois.
Il y a un côté très sport, hein?
Oui.
C'était une voiture, je dirais pas une voiture sport, mais de sa carrosserie, elle ressemblait vraiment à des modèles sport européens.
Voilà. Et c'est ça qui est magnifique avec ça, c'est que c'était relativement simple, hein, c'est une mécanique simple, c'est un petit moteur 4 cylindres, 1.1 litre, 1.3 litre, dépendant du moteur que vous prenez, qui était Renault, et là-dessus, ben, il avait greffé des éléments typiquement québécois, dessinés de la main de M. Soumil, qui était son conseiller, celui qui a dessiné la voiture, avec Maurice Gris, un monsieur de Longueuil qui vit toujours, et je le salue s'il nous écoute, qui était le mécanicien qui a ajusté plein de choses, et ça s'est produit à Granby jusqu'à un nombre de 150 voitures. C'est quelque chose, là.
C'est quelque chose. Tout.
Mais M. Deltel, est-ce que vous en avez une ou si vous êtes en train d'en construire une?
Je suis en train d'en reconstruire une, mais ça serait plus honnête de dire que c'est mon porte-monnaie qui le fait, parce que à chaque fois que je touche à quelque chose, malheureusement, c'est, disons que mon talent est ailleurs, on va dire ça de même. Mais moi, j'aime ça mettre la main à la pâte de temps en temps, mais c'est ça s'arrête là, tu sais. Donc, heureusement que j'ai des gens qui sont compétents, qui sont autour de ça. Alors, oui, moi, ma petite histoire est rigolo un peu, parce que j'ai eu à un certain moment trois maniques simultanément. Alors, j'ai eu une voiture, la 66, qui était pas vraiment parfaite, tu sais, le moteur était pas là, puis tout ça. Alors, je l'ai donné au cégep de Saint-Jérôme, parce qu'au cégep de Saint-Jérôme, vous avez un département qui, une technique qui fait pour les véhicules électriques, et je leur ai dit, faites-la électrique. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en avril 71, quelques semaines à peine avant la fermeture de l'usine, M. Abou avait dit dans une entrevue à La Voix de l'Est, il dit, moi, mon rêve, c'est de faire une voiture électrique. Il y a 50 ans de ça!
Quel visionnaire!
Oui.
Quel visionnaire!
Et oui, il avait ça en tête. Et donc, il y avait un potentiel là, fait que j'ai dit, crime, si des étudiants québécois peuvent redonner vie à ce véhicule-là et à permettre le rêve de M. Abou de faire une voiture électrique, ben bravo.
Très beau projet. Et Gérard Deltel, dépêchez-vous de compléter cette manique. Vous allez pouvoir faire une campagne électorale dans votre comté en vous promenant en manique.
Ben, je ne sais pas si c'est ça l'objectif, mais là, voyez-vous, on l'a reconstruit. C'est la 104 que j'ai achetée au mois de novembre dernier, qui était à Mont-Laurier, d'un monsieur qui l'avait acheté original, un monsieur professeur à Mont-Laurier qui l'a acheté. Là, on l'a refait la mécanique au complet. Elle a passé le test de la SAAC, donc elle est full légale, comme on dit en mauvais français.
Ouais.
Et là, on est en train de travailler la carrosserie, et cet hiver, on va travailler l'intérieur, et si tout va bien, le 23 mars, j'espère qu'elle puisse être de retour sur la route. Pourquoi le 23 mars? Parce que grâce à des documents qu'on a consultés, le 23 mars, c'est la journée où la voiture, la numéro 104, a quitté l'usine de
Granby. C'est incroyable. Quelle histoire. Combien de maniques ont été construites au Québec?
On parle d'environ 160. Le chiffre exact est flou à trouver parce que, comme on le sait, ça a coupé d'un coup sec, cette histoire-là, donc la clé dans la porte. On n'a pas le chiffre précis, mais on parle d'environ 160. Et actuellement, il y en aurait, d'ailleurs, dans le documentaire qu'on voit au Club Illico, je dis à peu près une trentaine. Le fils de M. Abou, Pierre Abou, lui, parle d'un peu plus d'une trentaine, enfin, 30-40 à peu près. Et donc, il y a quelques dizaines de voitures qui existent encore. Il y en a en France, il y en a... Moi, j'ai trouvé une type en Alberta qui en a une, je sais qu'il y en a en Colombie-Britannique également. Il y a un homme à Sept-Îles qui a pris une manique puis qui l'a mis sur, littéralement, vous savez, les big wheels là, qu'on appelle, là, les grosses voitures. Ben, il y en a mis une par-dessus. Alors, on est capable de recréer la manique. Et là-dessus, il y a Raymond Caillé, un homme de Montréal qui a créé l'amicale Manique GT, qui, lui, a reconstitué également une voiture tout à fait impeccable.
Bon.
Il y a des gens dans le coin de Sherbrooke qui ont ça aussi. Alors, préservons notre patrimoine industriel.
Oui.
Préservons notre seule voiture faite au Québec, et soyons-en fiers.
Quelle histoire quand même! Bonne chance faites attention à vos finances, Gérard Deltel. Ça coûte cher, des projets semblables.
Oui, mais disons que quand on est conservateur, on est très, très, très parcimonieux par rapport à ça.
Il fallait qu'il finisse, évidemment, avec une déclaration politique. Et faites attention à vous, Gérard Deltel, sur le trottoir.
Oui, il le faut.
Devant le Parlement, là.
Tout à fait.
Au revoir.
Merci beaucoup, monsieur. Quel plaisir de vous parler. Au revoir.
C'est le leader parlementaire de l'opposition officielle à la Chambre des communes du Canada. Et on se demande tout le temps, il y a des fois des histoires cachées comme ça. La manique. Benoît Charrette va être avec nous plus tard.
Il y en a eu trois.
C'est-à-dire, il y en a eu trois, lui.
Oui.
Mais il s'en est fait à peu près 150, 160. Et c'était entièrement conçu. Très bonne voiture au Québec.